Les ministres canadiens claironnent depuis la conclusion de l'accord de libre-échange avec l'Europe que les portes de l'Union européenne sont désormais ouvertes aux viandes canadiennes, le bœuf et le porc particulièrement. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, pourrait-on dire. Oui, en théorie, l'Europe ouvre ses frontières, mais comment penser livrer des viandes sur un marché saturé et pour lequel les partenaires européens se livrent déjà une très vive concurrence? J'en ai discuté avec Paul Auffray. Bien sûr, nous avons surtout parlé du porc, mais la discussion s'est élargie au bœuf et au lait.
Monsieur Auffray, Paul Auffray, donc je suis agriculteur et producteur de porc en Bretagne depuis 27 ans.
Donc, en Bretagne et en France, et vous êtes, je pense, président de la Fédération française.
Exactement. Donc, je suis président de la Fédération nationale porcine depuis 3 ans et demi.
Donc, vous connaissez très bien les contextes et de la Bretagne, bien sûr, et de la France. Attardons-nous à la Bretagne particulièrement, parce que, surtout, le fait que c'est en Bretagne qu'on retrouve les principaux élevages porcins.
Effectivement, donc, la Bretagne est la principale région agricole française. Donc, on est leader en porc, en production laitière, en production volaille, en production de viande bovine aussi, et aussi en production de légumes frais. Voilà, donc la Bretagne, enfin l'agriculture en Bretagne, c'est stratégique et essentiel pour la vie de l'économie et du territoire.
Le contexte porcin, on le sait, le porc connaît très régulièrement des difficultés, il y a des hauts, des bas, et les bas semblent se succéder plus rapidement que les hauts maintenant, et se prolonger aussi. Quel est le contexte actuellement? Est-ce que ça va bien dans l'industrie porcine en Bretagne?
Alors, effectivement, la Bretagne représente 60% de la production porcine française. Et on ne peut pas parler de la production porcine en Bretagne et en France sans d'abord analyser la situation européenne. On vit dans un environnement économique totalement intégré, où la concurrence est féroce entre les différents opérateurs français, danois, hollandais, allemands et principalement espagnols. Donc aujourd'hui, l'Europe de manière générale est excédentaire en viande porcine. Donc on a vécu une crise sans précédent depuis 2007. On a une crise qui a duré près de 10 ans, liée principalement à des problèmes de surproduction, à des problèmes d'inflation des matières premières, notamment du blé, du maïs et du soja, à des problèmes géopolitiques, puisque la Russie a créé un embargo sur les produits agricoles européens depuis plusieurs années. Et donc, en plus de ça, pour conclure le tout, pour être encore plus dur, on subit depuis plusieurs années un problème de baisse de consommation des viandes et des produits agricoles, enfin des produits laitiers entre autres, au niveau de l'Europe occidentale. Donc si vous voulez, plus de production, moins de consommation, ça fait forcément des crises à répétition au niveau des différentes productions animales en Europe et surtout en France.
Donc actuellement, c'est un contexte assez tendu.
Alors on a vécu une année correcte entre l'été, entre 2016 et 2017. Ça nous a permis à nous éleveurs de refaire surface, de refaire la trésorerie. Il était temps, grand temps, parce qu'on a quand même subi des grosses pertes depuis 2007-2008. Donc on a vécu une année correcte qui a permis aux éleveurs de retrouver le moral, de recommencer à investir, c'est vrai. Mais malheureusement, depuis plusieurs mois, le prix européen décroche fortement depuis quelques mois. On a perdu 30 centimes d'euros en l'espace de 2 mois, donc on a perdu 20% du prix en l'espace de quelques semaines. Et donc depuis quelques semaines, on est redescendu en dessous du coût de production. Donc on est revenu en espèce de crise chronique qui nous fait craindre le pire pendant l'hiver prochain.
Je vous écoute et ça me fait penser à la situation des producteurs québécois et canadiens. Aussi, les prix fluctuent et après une petite embellie, rapidement, les prix se sont de nouveau détériorés.
Alors, l'un des éléments qu'il faut rappeler, c'est que durant les dernières décennies, le contexte porcin européen était très différent du contexte nord-américain. Compte tenu des protections douanières et un certain nombre d'artifices comme cela, on ne vivait pas la même chose au même moment en Amérique du Nord et en Europe. Depuis une forme de mondialisation programmée, une forme de dérégulation et une suppression des droits de douane, on assiste à une forme d'uniformisation des conditions économiques au niveau mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les soucis européens sont les soucis canadiens et américains. On subit les mêmes pressions sociétales. On subit les mêmes pressions au niveau de la fluctuation du cours des matières premières, puisque le blé qu'on achète en France est indexé sur le prix de Chicago, comme le soja. Donc on subit aussi, on a les mêmes concurrents, les uns par rapport aux autres, les mêmes clients. Donc quand les Français vont en Chine, les Canadiens vont en Chine, donc on est concurrents en Chine. Donc on subit les mêmes problèmes économiques. Donc quand ça va bien pour tout le monde. Quand ça va mal aussi pour nous, bretons et français, mais aussi forcément pour les Canadiens.
Et dans ce contexte, il y a l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et il y a bien des producteurs québécois et canadiens qui avaient espoir de pouvoir livrer de la viande de porc sur le marché européen. Mais il n'y a rien d'automatique dans ça, là.
Alors, culturellement, nous, Français, comme beaucoup d'Européens, on est ouvert à l'idée d'une mondialisation régulée. On ne peut pas revendiquer vendre du porc en Chine et avoir un comportement protectionniste en Europe, ça paraît pas logique. Ceci dit, la libéralisation des échanges doit se faire dans avec une forme de règles communes. Je pense que c'est important de travailler sur les mêmes standards. Nous, ce que l'on voit par rapport à l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, c'est que on est plutôt ouvert à une forme d'ouverture avec le Canada et les États-Unis. Le problème, c'est que cet accord a été fait dans le plus grand secret, sans que nous, professionnels, soyons au courant des différents éléments de la négociation. Ça, pour ça, on est scandalisé de la façon dont ça s'est fait. On est ouvert à une forme de concurrence loyale. Par contre, on est très, très prudent sur les éléments qui pourraient construire une forme de concurrence déloyale. Ce qu'on veut, c'est avoir les mêmes standards de production entre l'Europe et le Canada, et à partir de là, la concurrence se joue de façon normale. Si on devait, nous, se faire imposer un certain nombre de choses, notamment non aux EGM, non un certain nombre de pratiques en Europe qui soient autorisées aux producteurs québécois et canadiens, ça nous paraîtrait complètement déloyal et donc pas acceptable pour les producteurs français. On fait confiance à nos gouvernements pour arriver à un accord qui soit équilibré, mais on est aujourd'hui dans une situation relativement instable, parce qu'on en parle beaucoup, mais on a peu d'éléments pour se prononcer sur les éléments de cet accord.
Simplement pour préciser, être bien clair, l'alimentation à partir de grains modifiés génétiquement, c'est autorisé ou non chez vous?
C'est autorisé, mais il y a une campagne féroce pour les faire interdire en France et en Europe. C'est-à-dire qu'il y a du lobbying de fait par les associations de consommateurs, par un certain nombre d'élus politiques qui souhaitent voir interdire l'utilisation des OGM dans l'alimentation animale et de surcroît dans l'alimentation humaine. Donc on est dans une forme d'inflation, pas réglementaire, mais d'inflation de pression des groupes de pression de type sociétaux, de consommateurs, de lobbies environnementaux, mais aussi d'un certain nombre de partis politiques qui en quelque sorte sont contre tous ces artifices. Et nous, ça nous pose un problème parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du soja non OGM sans y mettre le prix. Donc forcément, sans OGM, sans antibiotiques, des contraintes sur le bien-être animal, des contraintes sur la santé des animaux, des contraintes sur l'environnement, tout ça, c'est des coûts en plus et forcément du résultat en moins. Donc pour nous, ça reste des sujets de discussion très importants, d'abord entre nous, entre producteurs et dans la filière, mais aussi avec les pouvoirs publics pour qu'on puisse aboutir à des conditions économiques saines et loyales. On est pour des échanges, mais qu'elles soient saines et loyales entre tous les acteurs économiques.
Une autre substance dont on parle fréquemment, quand les producteurs d'ici osent espérer livrer éventuellement de la viande de porcine en Europe, la ractopamine dans les élevages, est-ce qu'elle n'est pas autorisée en Europe?
C'est interdit en Europe, donc forcément, si la filière canadienne souhaite exporter en Europe, ça devra s'en faire sans ractopamine. Il n'y aura pas d'accord en dehors de ça. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut éviter de se faire trop d'illusions sur le marché européen, parce que le marché européen est déjà arrivé à saturation, donc on est à 102, 103, 105% d'auto-approvisionnement. J'ai du mal à imaginer que la filière canadienne puisse y trouver beaucoup de rentabilité, sauf à exercer une forme de concurrence encore beaucoup plus forte, qui n'aura que pour effet de faire baisser les prix pour tout le monde, à la fois pour les filières européennes, mais aussi canadiennes. Donc on sait que les marchés porteurs sont plutôt l'Asie. Je ne vois pas bien comment l'accès au marché européen pourrait être bénéfique aux producteurs canadiens, notamment sur des matières brutes. Qu'elles soient bénéfiques sur des produits transformés, des produits élaborés, je pense que oui. Mais par contre, sur les produits bruts, ça sera très compliqué.
Sur la carcasse, comme.
Exactement. Donc sur les produits bruts, tels que le jambon, par exemple, la concurrence est déjà très très forte avec l'Espagne et le Danemark et l'Allemagne. Ça ne pourra entraîner que des prix à la baisse. Donc j'ai du mal à y voir un intérêt des deux côtés. Voilà, donc sauf à faire écrouler les prix une fois de plus au bénéfice des consommateurs qui n'en demandent pas mieux. Mais ce sera très compliqué pour nous, d'autant plus que les coûts de production à la fois en Europe et en Amérique du Nord ont tendance à se rapprocher.
On se fie très souvent au discours politicien qui dit qu'on a ouvert le marché européen pour la viande de porc, on a ouvert le marché européen pour la viande bovine. Oui. Mais dans le cas de la viande bovine, ce n'est pas la ractopamine, ce sont les hormones de croissance.
Exactement. Les débats sociétaux en France et en Europe font rage. Donc aujourd'hui, on est confronté, on va dire, à une résistance des consommateurs sur tout ce qui est alimentation artificielle, ractopamine, hormones, le poulet à l'eau de Javel, les OGM, les antibiotiques. Et donc tout ce qui concerne la santé des animaux, le sanitaire en élevage, a forcément des conséquences sur la santé publique. Et la santé publique en France est très sensible, est devenue un enjeu très sensible qui aujourd'hui explique pour partie la baisse de consommation des viandes. Donc il faut faire très attention pour justement essayer de conserver la confiance des consommateurs européens.
Monsieur Offray, j'aimerais vous entendre sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure et qui est fort intéressant. On sait qu'il y a surproduction laitière aussi en Europe, en France en particulier, mais on manque de beurre.
C'est vrai, donc j'en ai parlé un petit peu rapidement. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est en surproduction laitière, c'est vrai, depuis un certain nombre d'années. On est en surproduction de poudre de lait, donc de matière protéique. Par contre, on est en sous-production de matière grasse, donc on est en sous-production en beurre. Et donc, ce qui fait que le beurre, de manière générale, le prix du beurre a explosé au niveau mondial, en passant de 2000 euros la tonne à plus de 7000 euros la tonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu des conditions de négociation commerciale en France, les distributeurs ont refusé de répercuter les hausses sur le beurre en France. Ce qui fait que les industriels français ont dit « puisque vous ne voulez pas payer, nous, on va plutôt s'orienter vers l'export », ce qui aboutit de façon absurde à une forme de pénurie de beurre dans les rayons des magasins français, chose qu'on n'a pas vue depuis 1945. Donc tout ça pour dire que les relations commerciales entre les éleveurs, les industriels et les distributeurs sont à revoir pour qu'on aboutisse à des relations qui soient plus équilibrées.
Les grandes chaînes d'alimentation, comme on dit souvent, ces groupes-là jouent très dur.
Exactement. Donc il y a une forme de monopole qui s'est instaurée en France. Il reste 4 ou 5 grandes enseignes qui font en quelque sorte un peu la pluie et le beau temps au détriment de la production. Donc aujourd'hui, force est de constater que si les choses ne bougent pas, notamment au niveau politique, notamment au travers des états généraux de l'alimentation initiés par le président de la République qui a été élu au mois de mai, qui en principe doivent permettre de bouger les lignes en matière de révision des prix de façon courante et puis réviser aussi les conditions des négociations commerciales. Si on n'arrive pas à ça, je pense que les temps vont être très difficiles pour le secteur de l'élevage en France.
En terminant, M. Offray, est-ce que les Français, est-ce que les Bretons vont manquer de croissants avec cette pénurie de beurre?
C'est fort possible. C'est fort possible parce que, honnêtement, les Français sont bien connus pour être friands de croissants, de pain au chocolat au petit déjeuner. On sait malheureusement qu'en partie, les croissants et les pains au chocolat sont faits avec des huiles végétales pour compenser la pénurie de beurre, mais surtout pour essayer de diminuer les coûts des pains et des croissants. Ce que je peux dire, moi, en tant que consommateur de croissants, c'est que je mange plus de croissants faits avec des huiles végétales parce qu'ils sont trop durs à digérer. Donc j'espère que le beurre reviendra dans les étals pour qu'on puisse remanger des croissants de bonne qualité.
Croissants pur beurre.
Exactement, comme les gâteaux pur beurre qu'on aime bien manger, surtout en Bretagne. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Offray.
Merci beaucoup, et puis je souhaite le meilleur à tous les Québécois qui nous écoutent.
Merci. À Ottawa, on prépare une politique alimentaire. À Québec, une politique bioalimentaire. On veut se donner des guides pour orienter notre agroalimentaire. Mais cela n'a pas de commune mesure avec ce qui se passe en France avec les États généraux de l'agriculture, initiés par le président de la République, Emmanuel Macron. Ici Lionel Levac. Les enjeux sont de très chaude actualité dans ces États généraux français. Comme le disait Paul Offray, l'un des points cruciaux est de déterminer jusqu'où l'État français ira pour contraindre les grands distributeurs à des mécanismes de négociation, sinon de fixation des prix qu'ils versent aux agriculteurs et aux transformateurs. Ces États généraux de l'agriculture en France vont encore durer quelques semaines. Au revoir.